Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, le Conseil de sécurité examine la situation humanitaire en Syrie et reprise des négociations entre le médiateur de l'ONU et les parties au conflit syrien. Le point sur la situation au Yémen ainsi que sur le lancement des campagnes de vaccination dans les pays touchés par Ebola. Coup de projecteur aussi sur les réactions aux mesures annoncées par l'UE pour gérer les afflux de migrants, l'indignation suscitée par la publication d'un éditorial haineux et le rôle des dirigeants religieux pour contrer l'incitation à la haine. C'est la situation humanitaire en Syrie qui a préoccupé ce matin le Conseil de sécurité. 4 années de conflit qui ont fait plus de 200 000 morts, 1 million de blessés et 4 millions de réfugiés. Devant les 15, Antonio Guterres, le haut commissaire pour les réfugiés, a averti que la situation dans la région était devenue totalement insoutenable et que l'insuffisance de l'aide internationale ne permet pas de couvrir les besoins humanitaires les plus élémentaires des populations. À l'instar du Programme alimentaire mondial qui a déjà été contraint de réduire son programme de compens alimentaire de 30%. Angelina Jolie-Pate, envoyée spéciale du haut commissaire pour les réfugiés, était également présente.
Un Syrien pris au piège par ce conflit, c'est être coupé de tous les principes et lois conçus pour protéger les vies innocentes. On ne peut regarder la Syrie et le mal qui a jailli des cendres de l'indécision et penser que ce n'est pas là le point le plus bas dans l'incapacité du monde à protéger et à défendre les innocents. Il est ignoble de voir des milliers de réfugiés se noyer aux portes du continent le plus riche du monde. Personne ne met la vie de ses enfants ainsi en péril, si ce n'est dans le désespoir le plus absolu. Si nous ne pouvons pas mettre un terme au conflit, nous avons un devoir moral incontestable d'aider les réfugiés et de leur fournir des voies juridiques vers la sécurité.
Le médiateur de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, va entamer le 4 mai au Palais des Nations à Genève des négociations séparées avec les différentes parties prenantes au conflit syrien. L'objectif de ces consultations est de relancer le processus de paix et de faire le point sur la situation, et cela presque 3 ans après l'adoption du communiqué de Genève du 30 juin 2012. Les explications de notre correspondant à Genève, Alpha Diallo.
Cela fait plusieurs semaines que le médiateur de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, multiplie les contacts pour tenter de réunir les acteurs syriens et les pays ayant une influence sur le conflit. Et pour relancer ce dialogue, ces nouvelles consultations de Genève prévues le 4 mai dureront 4 à 6 semaines. Un processus qui verra aussi la participation des représentants ou ambassadeurs des parties invitées ainsi que des experts. Lors d'une conférence de presse vendredi à Genève, le porte-parole de l'ONU, Ahmed Fawzi, a indiqué que les invitations ont été envoyées aux parties syriennes, mais aussi aux acteurs régionaux et internationaux. Sur le format de ces consultations, il est prévu que l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie rencontre d'abord les représentants des Syriens. L'objectif affiché de ces négociations est de voir comment relancer le dialogue presque 3 ans après l'adoption du communiqué de Genève 1, un document signé le 30 juin 2012 comme plan de règlement politique du conflit à l'issue de la première conférence internationale sur la Syrie sur les bords du lac Léman. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Au Yémen, la situation se détériore. Le Bureau des affaires humanitaires signale que depuis le 19 mars, le conflit a fait plus de 1 000 morts, 4 300 blessés et 150 000 déplacés. L'acheminement de nourriture, d'eau, d'électricité, mais aussi de carburant a été interrompu et l'Organisation mondiale de la santé avertit que le secteur sanitaire est sur le point de s'écrouler. Malgré ce contexte, le Programme alimentaire mondial est parvenu à nourrir plus de 19 000 personnes, dont 8 700 à Aden. Elisabeth Beers, porte-parole du PAM.
Le manque de carburant dans le pays nous gêne et va nous gêner pour continuer et augmenter les opérations dès que nous pourrons avoir un accès dans toutes les régions. Ce manque de fuel empêche également les familles de cuisiner normalement. On voit l'augmentation des prix qui monte en flèche et qui va toucher les familles les plus pauvres. Avant la crise, il y avait 10 600 000 personnes qui étaient en état d'insécurité alimentaire au Yémen. On voit une augmentation actuellement et nous sommes maintenant à 12 millions de personnes qui ont besoin d'assistance alimentaire.
Suite des réactions aux décisions prises jeudi par le sommet de l'Union européenne sur les migrants, les 28 États membres réunis d'urgence à Bruxelles ont entériné une série de mesures jugées insuffisantes et inadaptées par les experts de l'ONU sur les droits de l'homme des migrants et la traite des personnes, François Crépeau et Maria Grazia Giammarinaro. Les détails avec Jérôme Longuet.
La sécurisation des frontières et l'accroissement de la répression de la migration économique sont des mesures qui ne marchent pas. C'est le double avertissement lancé par François Crépeau et Maria Grazia Giammarinaro. Pour eux, la destruction des bateaux n'est qu'une solution à très court terme, de même que le renforcement de la capacité des pays de transit à arrêter la migration irrégulière. Des mesures qui ne résoudront rien à long terme et ne feront qu'augmenter le coût et les risques pris par les migrants. Aussi, les experts plaident-ils pour l'adoption de réglementations sur la mobilité plus complète et innovante, notamment d'une politique de réinstallation massive au cours des 5 prochaines années. Objectif : accueillir tous ceux qui ont besoin d'une protection internationale. Enfin, au lieu des interdictions qui alimentent la contrebande, l'Union européenne doit reconnaître les besoins de son marché du travail, protéger les droits des migrants et soutenir les États de première ligne qui sont débordés.
D'importantes campagnes de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite viennent d'être lancées par la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia. Situation dont se félicite l'UNICEF qui précise que c'est la première campagne de vaccination depuis l'irruption de l'épidémie Ebola dans la région. Les précisions de Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF.
Vous savez que la rougeole est particulièrement meurtrière pour les enfants de moins de 5 ans. C'est aussi une maladie particulièrement contagieuse. Donc l'élément important, c'est vraiment le retour à des campagnes de vaccination. En Guinée, où le pays connaît des cas de rougeole avec 1422 cas suspects de rougeole, 65 cas confirmés, 5 morts. Et le 18 avril dernier, une campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été lancée pour vacciner 1,3 million d'enfants. Liberia, depuis janvier 2015, il y a 338 cas suspects de rougeole. Une campagne va bientôt commencer pour vacciner 700 000 enfants âgés de moins de 5 ans.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Un éditorial du tabloïd britannique The Sun sur les migrants a soulevé une vague d'indignation à l'ONU, à commencer par le haut-commissaire aux droits de l'homme Zaid Rabal Hussein qui a exhorté vendredi le Royaume-Uni à prendre des mesures contre les discours de haine déversés par certains médias contre les étrangers. Dans un numéro du Sun du 17 avril dernier, un journaliste avait notamment comparé les migrants à des cafards. Les réactions de Cécile Pouilly, porte-parole du haut-commissariat aux droits de l'homme, au micro d'Alpha Diallo.
C'est vraiment un article aberrant qui en fait n'est qu'un des exemples les plus extrêmes en fait des articles contre les étrangers qui sont parus dans les tabloïds britanniques au cours des 20 dernières années. Le haut commissaire s'est exprimé aujourd'hui par rapport à cet article mais aussi par rapport à une tendance d'abus contre les étrangers, les migrants, teintée de désinformation et de distorsion et il appelle à ce que des mesures soient prises pour juguler ce qu'il considère comme une incitation à la haine par les tabloïds britanniques.
Et cet article d'Isson n'est qu'une suite logique de cette tradition d'articles de tabloïd anglais au cours de ces 20 dernières années.
Ce n'est pas un phénomène nouveau malheureusement et on a eu de nombreux exemples. Outre le Sun, par exemple, rien qu'en 2003, le Daily Express avait mis à sa une plus de 22 couvertures en l'espace de 31 jours qui portaient sur les demandeurs d'asile et les réfugiés et les dépeignaient de manière négative en les associant tour à tour à des viols, des meurtres, des maladies, des vols et à tout crime possiblement concevable. Donc on voit bien qu'il y a une tendance pour systématiquement faire des demandeurs d'asile et les réfugiés, la source des problèmes au sein de la société.
Mais quand ils traitent les migrants de cafards, les comparent à des Novorius, que risque cette incitation de la haine, même s'il faut respecter la liberté d'expression ?
Bah écoutez, la liberté d'expression, bien sûr, nous la défendons ardemment en tant que haut commissariat aux réfugiés, mais cette liberté d'expression n'est pas absolue. Il y a de nombreux instruments juridiques qui sont appropriés à cet égard, et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule très clairement que les appels à la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination sont interdits par la loi. Donc le droit national britannique mais aussi international s'applique dans ce cas et nous avons demandé d'ailleurs aux autorités britanniques de prendre des mesures et de voir si ces discours sont vraiment en conformité avec le droit.
Cette rhétorique du cafard a été utilisée lors du génocide au Rwanda par la radio des Milconines et les responsables de cette radio ont été condamnés. Pensez-vous que cet article du Sun pourrait valoir des poursuites ?
Eh bien écoutez, la justice britannique va être saisie puisque lundi, une ONG britannique a dénoncé le Sun à la police britannique et demandé une enquête. Nous attendons les résultats de cette enquête. Mais vous avez raison, le langage employé est très similaire à celui utilisé par un journal appelé le Kangura, mais aussi la radio bien connue des Mille Collines au Rwanda dans la période pré-génocidaire. Donc on faisait déjà à l'époque référence à des cafards et on a bien vu le résultat terrible qui en a suivi.
Le haut-commissaire Zaid exhorte les autorités à prendre très au sérieux cette plainte. Pensez-vous que cela soit possible, surtout face à la poussée du parti populiste UKIP dans ces élections ?
Mais oui, c'est tout à fait possible. Le Royaume-Uni, il a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais également la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ces deux instruments sont fondés sur la volonté de rendre illégal le genre de discours de haine antisémite et basé sur la race.
Et quand vous demandez les pays européens d'adopter une ligne plus ferme sur le racisme et la xénophobie, estimez-vous que le discours de la haine se libère avec la poussée des partis xénophobes et populistes ?
Oui, tout à fait. On voit bien aussi que dans d'autres parties de l'Europe, hein, pas seulement au Royaume-Uni, il y a un processus similaire de diabolisation des migrants et des réfugiés, souvent d'ailleurs plutôt mené dans d'autres pays par des partis politiques extrémistes plutôt que par des médias extrémistes, mais avec souvent aussi des fins électoralistes, parce qu'on voit bien que le racisme et la xénophobie, c'est vendeur et ça aide à gagner des voix.
Face à la prolifération de propos haineux, le Bureau de l'ONU pour la prévention du génocide et la responsabilité de protéger co-organise une conférence sur le rôle des dirigeants religieux dans la prévention des crimes d'atrocité. Conférence qui se tient depuis hier à Fès, au Maroc. Son objectif, poser les premières pierres pour l'élaboration d'un plan d'action qui permettra aux dirigeants religieux d'agir contre l'incitation à la haine et aux violences de masse. Sur place, Madiha Sultan s'est entretenue avec Adama Diang, conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide.
La prévention des crimes d'atrocité, c'est une œuvre collective. Ça ne peut pas être, bien entendu, seulement l'affaire des gouvernants. Ça ne peut pas être seulement l'affaire des leaders religieux, l'affaire des médias. Mais ici, à Fès, nous avons décidé de nous concentrer sur un aspect de la prévention des atrocités. C'est essentiellement la prévention de l'incitation à la violence, à la haine, à l'intolérance, cette incitation qui peut déboucher sur les atrocités. Mais ceci dit, il nous faut bien entendu préciser que si l'on jette un regard sur ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine, au Myanmar, en Irak, en Syrie, dans presque toutes les parties du monde, nous voyons des crimes qui se commettent au nom de l'intolérance. Mais ce qui est important, c'est que les gouvernants de ce monde fassent de la gestion constructive de la diversité leur motto. Il est essentiel que personne ne se sente exclu. Si aujourd'hui nous avons ces psychopathes de ISIS, qu'on appelle Daesh en arabe, eh bien c'est parce que le gouvernement du premier ministre Al-Maliki a échoué dans sa gestion constructive de la diversité. Vous prenez Boko Haram au Nigeria. À l'origine, c'était un groupe de jeunes musulmans bien formés avant que ce mouvement ne devienne ce qu'il est devenu. C'était donc la frustration à la base, l'exclusion, la corruption qui avait gangréné aussi, il faut le dire, le système gouvernemental nigérian. Voilà pourquoi il nous faut lutter contre ces maux en réglant les problèmes à la base, en étant inclusif, en faisant en sorte qu'on combatte la corruption qui est aussi une des tares de nos systèmes, qui crée des frustrations, qui crée des monstres. Il nous faut un monde plus solidaire. Mais il est évident aussi que ces pays qui sont à la recherche de leur développement devront s'investir davantage dans le respect de la primauté du droit, la rule of law.
Mais il y a une série d'ateliers sur la prévention de l'incitation il y a 2 ans et les plans d'action de Rabat, d'Amman et de Vienne. Mais malgré tous ces efforts, on constate une augmentation notable des tensions entre les membres des différents groupes religieux. Comment se l'expliquer ? Qu'est-ce qui a échoué ?
Vous savez, ça n'est pas facile. Je pense que malgré ces documents, il y a encore de la haine ici et là. Et que faire? Il faut amener les leaders religieux à faire en sorte que nos communautés de croyants ne répondent pas à l'incitation à la violence. Faire en sorte que nos communautés de croyants soient immunisées contre la tentation de répondre à l'incitation. C'est ainsi que pendant 2 jours, ces leaders religieux vont devoir discuter de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire lorsque des discours d'incitation ou de haine sont prononcés au sein de leur communauté. Et en même temps, ils vont essayer de démontrer qu'il y a des moyens de répondre à cette incitation.
Et c'est avec Adama Dieng que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine et on se retrouve lundi, même heure, même fréquence.